à partir du moment où l'objectif est quand même subjectif, ça peut nous venir assez loin si nous commençons à décider qu'est-ce qui est véritablement objectif, qu'est-ce qui est véritablement vérifiable, qu'est-ce qui est vrai. Maintenant, évidemment, cette perception qui est propre à chacun d'entre nous, j'ai dit qu'elle se référait à l'ensemble contextuel de mon histoire, par exemple, pour ce qui est de moi, donc pour chacun d'entre nous. Si bien qu'il y a effectivement quand même un espace intérieur, c'est bien un espace qui est encore plus intérieur que cet espace extérieur que j'ai appelé maintenant intérieur. Donc il y a un espace intérieur, et dans cet espace intérieur, il y a des représentations, il y a des souvenirs, il y a un riche polypier d'images, si vous voulez, un polypier d'une complexité, évidemment, qu'au XVIIIe siècle, on ne pouvait certainement pas concevoir. À partir de là, puisque la représentation me sert à justifier, puisque je fais cette hypothèse, je peux aussi faire l'hypothèse que les représentations subjectives que j'ai en dehors de la présence, c'est-à-dire in absentia des choses, en absence des choses, eh bien cette représentation, ces images, peuvent avoir aussi un intérêt pour mon adaptation à mon environnement. Par exemple, je peux admettre que si je repasse à mes expériences, je peux les triturer dans ma tête de façon à l'avenir à faire moins de conneries. Supposons que je fais une connerie, je peux les retriturer dans ma tête de façon à l'avenir à faire moins de conneries. Ce qui veut dire que la mémoire devient utile. Je me rappelle de ce que j'ai fait, de ce qui m'a réussi et de ce qui ne m'a pas réussi. Je malaxe le tout et la prochaine fois, je tâche de faire en sorte que ça soit mieux. Enfin, quelquefois, je fais en sorte que ce soit surtout pareil et peut-être pire. Ça sort du rêve, parce que là, je voulais parler du rêve. Le rêve, il est quand même destiné, au moins, me semble-t-il théoriquement, à permettre justement une meilleure gestion de notre environnement, non seulement parce qu'il me permet de mettre en mémoire ce qui est intéressant de cet environnement, le rêve et l'ensemble des processus nocturnes, si vous voulez, mettre en mémoire donc, les expériences intéressantes de ma journée, que les événements qui pouvaient être intéressants, et aussi, peut-être, d'essayer de nouvelles combinatoires, c'est-à-dire de faire des chimères. On va faire des chimères, on va se dire, ah, mais si la prise, je la mettais là-bas, au lieu qu'elle soit là, et puis si quelqu'un passait jusqu'à sa figure, etc. Donc on peut faire des constructions chimériques, dans ce sens qu'elles mélangent, elles mixent, elles combinent des images, des histoires, des objets qui, dans l'expérience préalable, n'étaient pas dans les mêmes rapports entre eux. Si bien que, personnellement, j'admets la fonction imaginale qu'on aurait pu ajouter à l'étymologie de l'image. C'est-à-dire imaginale, donc, est un terme qui est récent, qui a une fortune moyenne, mais enfin qui est intéressant quand même, dans ce sens où il se distingue de l'imaginaire, c'est-à-dire que l'imaginal serait un processus créatif lié à l'imagination. C'est-à-dire que l'imagination, bien sûr, c'est la folle logique, elle peut nous conduire dans des détours souvent qui comporte des pièges, mais également l'imagination, et je pense en priorité, nous permet la créativité, nous permet de nouvelles combinatoires, nous permet d'explorer de nouvelles situations, nous permet de modéliser les comportements avant de les essayer dans la réalité, on peut très bien les imaginer. Et d'ailleurs, même quelques découvertes scientifiques, vous le savez, ont été opérées par ce biais, par exemple, qui à son époque s'intéressait à la chimie, et pendant des années il se demandait, comme tous les chimistes de son époque, comment se faisait-il que les carbones du benzène, un certain nombre de carbones, un certain nombre d'hydrogène, et on ne comprenait pas parce qu'il manquait des hydrogènes, on ne comprenait pas comment ça pouvait marcher. jusqu'au rêve qu'il a fait, où il voyait le Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, et il s'est dit, voilà, mais ça, la molécule, elle pourrait se mordre la queue, c'est-à-dire que le squelette des atomes de carbone pouvait être en cercle au lieu d'être en ligne, et à partir de ce moment-là, il y avait des nouvelles qui étaient moins nécessaires. Donc il a fait une invention, c'est plus qu'une invention, il a fait une découverte, extrêmement tout à fait capitale pour la chimie, tout simplement parce qu'il a essayé une combinatoire par rapport à un problème qui le préoccupait et dont personne n'avait la solution. Alors je vais continuer sur des dadas qui sont les miens, mais je sais que la discussion est pour tout à l'heure, mais s'il y a une objection, une question...